Bonjour, bienvenue ce matin pour la table ronde intitulée Les esclaves du temps. Oh yeah. Est-ce qu'on pourrait avoir un casque pour Matt Sedain, s'il vous plaît? Et un micro de plus aussi, ça serait super, merci. Justement, oui, voilà, vous pouvez mettre des casques parce que Matt va parler anglais. Donc si vous voulez une traduction simultanée, vous pouvez aller chercher des casques derrière. D'accord. Demande.
Oui, en avoir un aussi.
Qui a besoin d'un...
Ça, c'est pour Matt.
Donc voilà, bienvenue pour cette table ronde. Donc nous aussi, nous sommes esclaves du temps parce qu'on nous a obligés à nous lever tôt pour être là à 10h. Et vous aussi, vous êtes esclaves du temps parce que vous êtes venus pour nous écouter ce matin et nous en remercions. Donc je vais présenter les invités qui participent à cette table ronde en commençant... oui, merci. En commençant tout là-bas avec Claude Eken, qui est un auteur français, auteur de nouvelles et de romans de science-fiction, très célébré par la critique et qui a reçu deux prix Rognéné, surtout pour ses nouvelles. Voilà. On peut citer, alors les nouvelles c'était La fin du Big Bang, Fragment lumineux du disque d'accrétion, et qui a reçu un grand prix de l'imaginaire aussi en 2006 pour son recueil de nouvelles, Le monde tout droit réservé. Voilà, Claude est un grand spécialiste de science-fiction. Ok. À sa gauche, c'est Sylvie Denis, qui elle aussi est une auteure française, réputée aussi pour ses nouvelles et pour ses romans, qui a été aussi éditrice dans une vie antérieure. On peut citer donc son recueil de nouvelles Jardin virtuel, qui est toujours dispo, je pense, chez Folio. Ses romans Haute école, qui a reçu le prix Julia Verlanger, et plus récemment La saison des singes et L'Empire du Sommeil. Voilà, elle est publiée chez La Talente. À sa gauche, Péric Pitrou, qui lui n'est pas un auteur, mais qui est ethnologue et chargé de recherche au CNRS. C'est ça ?
Tout à fait.
Voilà.
J'écris aussi des livres, mais voilà. Pas de fiction.
Des essais. Et qui a créé l'équipe Anthropologie de la vie et de représentation du vivant. Il va nous expliquer de quoi il s'agit, de son domaine exactement de recherche. Voilà, donc ça sera le scientifique de la bande. À sa gauche, Valérie Mangin, qui est scénariste de bande dessinée.
Bonjour.
Qui a une formation d'historienne, donc qui va peut-être nous éclairer sur le temps un petit peu, spécialisée de l'Antiquité, je crois. Voilà.
Antiquité jusqu'à la fin de la période moderne.
D'accord. Donc voilà, on va avoir son point de vue d'historienne et de raconteuse d'histoire aussi, puisqu'elle est scénariste. Alors, on peut citer Alix Sénator, les aventures du Alix de Jacques Martin, mais devenu adulte. Et puis des séries comme Trois Christes, Le Fléau des Dieux, etc. Voilà. À sa gauche, Matt Sedain, qui a enfin réussi à mettre son casque.
Bonjour. My headphones just broke. Also, all I can hear is French from you.
C'est vrai? You have to change on the channel. Yeah.
One moment.
Ok. Donc Matt Sedain, qui est néo-zélandais mais qui habite à Londres, qui écrit pour la presse, voilà, qui est journaliste,
okay.
Et qui a publié son premier roman en français. Une traduction de l'anglais qui s'appelle Théâtre des dieux au diable Vauvert. Et son prochain roman, Hunters and Collectors, qui est, si j'ai bien compris, un space opéra avec un critique culinaire. Je crois que c'est ça. Qui sortira. Alors, is it out in English? Il est sorti déjà en anglais?
It hasn't been translated, but the lovely Sarah Doak is starting work
okay.
on it, which
Donc,
is
bientôt,
very exciting.
Bientôt traduit en français, toujours au Diable au Vauvert. Pour commencer, je vais demander peut-être à Péric de nous donner son point de vue d'anthropologue sur le rapport au temps et des humains, sur la thématique de sommes-nous esclaves du temps.
Bien, je vais commencer à effectivement faire quelques petites remarques préliminaires à partir de la science, mais de la science sociale ou des sciences sociales. m'appuyant à la fois sur l'ethnologie, qui est l'étude des sociétés humaines singulières, et sur l'anthropologie, qui est l'entreprise de comparaison des différentes cultures et des différentes manières de se rapporter au monde qu'on peut découvrir chez les humains. En plaçant la perspective des sciences sociales, il me semble important de dire tout de suite que la notion d'esclavage et le fait d'être esclave du temps invite, à mon avis, d'une façon privilégiée à une approche justement de type sociologique ou anthropologique, dans la mesure où parler d'esclavage par rapport au temps physique est un usage qui demeure métaphorique. Alors hier, évidemment, on a bien vu à de multiples reprises qu'il y a dans la dimension d'irréversibilité du temps physique quelque chose qui s'impose à tous les êtres vivants et aux humains par excellence. De là à dire qu'il est question d'un esclavage, évidemment, c'est plutôt un jeu sur les mots qu'une description réelle des systèmes de relations qui sont en jeu. Parler d'esclavage invite toujours à penser des relations interhumaines sociologiquement établies, éventuellement codifiées par le droit, avec une inscription historique qui peut évoluer au cours du temps. Donc je pense que déjà, en première remarque, on pourrait dire que soulever la question de notre état d'esclave par rapport au temps invite de faire intervenir non pas deux termes, l'esclavage et le temps, mais trois termes, le temps, le maître ou les maîtres, et l'esclave ou les esclaves. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième étant de faire surgir, si vous voulez, la dimension construite du temps humain, le fait que face à ce temps irréversible qui s'impose à toute société humaine et à tout individu, eh bien, les humains construisent des dispositifs, non pas pour, à proprement parler, contrôler le temps, mais en tout cas pour l'aménager, pour le mesurer, pour organiser des coordinations d'action à l'intérieur, pour fixer des rythmes. Tant est si bien que les humains ont élaboré depuis l'origine un certain nombre de techniques du corps, marquage du territoire, construction de calendriers, système de comptabilité ou d'écriture, qui permettent en quelque sorte non pas de se soustraire à l'emprise du temps irrémédiable ou irréversible, mais en tout cas d'y imprimer sa marque. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est dans cette marque-là, dans cette construction technique, que quelque chose comme de l'esclavage peut apparaître. Alors on pourrait avoir une première façon d'envisager les choses concernant justement ce monde de la technique que les humains vont élaborer, en suivant les analyses d'un philosophe qui s'appelle Helmut Rosa, qui a décrit l'accélération dont nous faisons tous l'expérience dans les sociétés contemporaines, cette impression de toujours manquer de temps. Et ce philosophe montre très bien que c'est une impression qui n'émerge pas uniquement dans notre psychologie intime, mais qu'elle provient précisément des techniques que les humains ont mises en place pour exercer un rapport différent au temps. Moyens de transport, moyens de communication, systèmes de mesure du temps, autant de façons, en quelque sorte, d'agir sur le temps. Mais, nous dit Rosa, ce monde, en quelque sorte, peut devenir s'autonomiser, créer des systèmes et des rythmes propres et nous imposer en quelque sorte ce rythme-là que nous n'avons pas forcément choisi. Alors c'est peut-être le premier sens qu'on pourrait donner au terme d'esclavage, ça serait une forme finalement de perte de contrôle face à un système immanent, un système qui se génère lui-même sans qu'il y ait à proprement parler de maîtrise ou de maître qui vienne commander et nous rendre esclaves. Alors si vous voulez, j'aurai d'autres exemples tout à l'heure, mais on peut peut-être commencer à discuter ces points-là pour faire circuler la parole.
D'accord. Claude, moi quand je passe à esclavage, je dirais que je pense au travail, évidemment. On parle de maître et d'esclave. Dans le cadre du travail, qui sont les maîtres et qui sont les esclaves du temps, en fait? Est-ce qu'il y a un lien comme ça, différent de celui que Péric vient d'exprimer?
Disons que le patron était un peu le maître du temps. Il n'y aurait pas eu d'industrialisation s'il n'y avait pas eu une mesure et une découpe du temps. Dans toutes nos sociétés, le temps était un moyen de contrôle des choses. Au départ, on n'avait que le calendrier. Ensuite, on a eu l'horloge, et l'horloge permettait de rythmer un petit peu la journée. Et à partir du moment où il y a eu des montres un petit peu partout, il y a eu des horaires de travail, et il y a eu un découpage de temps de plus en plus précis. Et alors évidemment, avec le côté mécanique, la taylorisation justement, ça consistait en premier lieu non pas de fabriquer des machines-outils et avec un ouvrier derrière, mais de calculer le temps qu'il mettait à accomplir une tâche. Et à partir de là, on impose à chaque personne de faire sa tâche dans le temps qui lui est imparti, même si lui-même est peut-être moins rapide. Donc là, oui, l'esclavage commence, et c'est le patron qui commande, c'est celui qui détient l'horloge. On trichait d'ailleurs, puisque à certaines horloges à l'entrée de l'usine, on y mettait un poids, ce qui lui permettait parfois d'accélérer certaines choses. Donc il commençait parfois plus tôt, il finissait beaucoup plus tard, il s'en rendait compte en rentrant chez lui, et on interdisait par endroit à l'ouvrier d'avoir sa montre. C'était un motif de licenciement, puisqu'il était en train de calculer, lui, le temps qu'on lui donnait, le temps qui lui était imparti et qui n'était pas celui qui était indiqué par l'horloge.
It's interesting, the point you make. There was another moment where, in the 19th century, we crossed over into continental time, so we began to, we adopted the European mode of time. So what it meant was that there would be 11 days missing, and there were riots in Britain at the time. Someone in Bristol died. People were taken to the streets saying, "Give us back our time. Give us back our 11 days," as if those things existed. In a way, we make ourselves slaves to time. There was a woman that I met when I was traveling in Thailand, and she worked in a hotel near the bridge on the River Kwai, and I met her, and she was really nice. She had perfectly, almost luminescently pale skin, and we got talking, and she, I said, "What did you do before this?" And she held up her hand and said, "Can't you see?" And I didn't really understand. She said, "I worked in a sweatshop." So she worked in a factory. And her day was insane. It lasted 18 hours, and then she would be given a few hours sleep. And they didn't see the sun. And so she turned this shade of white that she would never get back. Her whole biological clock was changed. And that seemed insane to me, because I was aware of the workers in the 19th century who had their watches taken away. I think it's one thing to no longer be able to know what time it is, but imagine having the sun taken away as well. You know, even those Victorian workers could look out the window and they could see the sun rising and falling and knowing when their torture would end. But of course, in the West, we have our own self-imposed form of time torture. We don't have that direct form of torture anymore. We've adapted a more subtle form of torture, which is to be told every single second, every single minute that we have is currency or is valuable. So we drive ourselves insane.
Oui, je disais, effectivement, le patron était le maître du temps au départ. C'est pour ça que le législateur a assez vite pris des mesures pour limiter ce pouvoir. Parce que finalement, le patron, lui aussi, est contrôlé par la loi et l'inspection du travail. Et finalement, on dit, finalement, un ouvrier ne doit pas bosser plus de tant d'heures par jour, plus de temps de semaine, doit avoir tel temps de congé. Tout ça est très, très encadré, finalement, aussi. Et peut-être que le vrai maître du temps, enfin, en société, en tout cas, c'est l'autorité suprême, le gouvernement, qui décide un peu de ce que les patrons peuvent décider. On voit ça, c'est souvent le roi, le président qui décide du calendrier. Et d'ailleurs, on voit que quand un pouvoir essaie de s'affirmer de manière très forte, il change le calendrier. On voit ça par exemple dans l'Antiquité, où quand César essaie de s'affirmer et de prendre le pouvoir à Rome, il régule un peu le calendrier. Alors il y avait besoin de cette régulation. L'année romaine n'était pas totalement adaptée à l'année solaire. Mais c'est César qui a décidé qu'on allait rajouter un mois, qui bien sûr allait porter son nom, tant qu'à faire. Et Auguste, venant après lui, étant le premier empereur romain, a pris la même décision, a rajouté à nouveau un mois au calendrier. C'est pour dire à quel point le législateur, l'empereur en l'occurrence, essaie de contrôler le temps lui aussi, de décider de la taille du calendrier, de la forme qu'il doit prendre. Et on voit ça encore récemment, par exemple, on a changé d'heure la semaine dernière, Moi, je pensais que partout en Europe, on changeait d'heure en même temps, ce qui est quasiment vrai, à quelques exceptions qui sont la Russie et la Turquie, qui ont, la Russie en 2014 et la Turquie en 2016, ont décidé qu'on ne changerait plus d'heure en même temps que les autres. C'est-à-dire que Poutine et Erdogan ont décidé, j'ai comme ça dans leur coin, j'exagère, mais que eux, que le changement d'heure n'était pas bon pour leur pays, en fait, que ça coûtait trop d'énergie. On prit le discours totalement inverse qu'on nous tient, on nous dit qu'on change d'heure pour économiser de l'énergie, et eux ont dit exactement l'inverse, qu'ils allaient cesser de changer d'heure pour économiser de l'énergie aussi. Donc c'est pour dire à quel point le législateur tient à contrôler un peu tout ce qui est horaire, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est tout ce qui modèle finalement notre emploi du temps.
On a un autre exemple plus connu. C'est vrai que juillet-août, c'est évident, mais on n'y pense pas forcément. Mais la Révolution française, l'un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'était mettre un calendrier un peu fantaisiste. Mais voilà,
C'est vrai qu'eux-mêmes sont passés de la semaine de 7 jours au, à la semaine de 10 jours, en quelque sorte, pour éviter d'avoir à fêter les fêtes religieuses, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais c'est vrai que la religion modèle le temps aussi. Quoi. La semaine de 7 jours qu'on connaît, avec le dimanche qui est censé être un jour férié, par exemple, c'est vraiment une marque forte d'un pouvoir qui se voulait spirituel sur la vie des hommes. Quoi. C'est l'Église qui décide que tous les 7 jours, on arrête de travailler. Quoi. Et ce jour-là et pas un autre. Et finalement, on n'a pas le choix.
Il y a une espèce de tension, peut-être, entre la nature et l'univers, le soleil, la lune, la nuit, le jour, et ce que les hommes régulent par rapport à ça. Quoi. Les montres... Oui, vas-y.
Justement, de ce point de vue, je pense qu'il faut distinguer deux types de mesures du temps. Il y a les... façon de mesurer des rythmes qui ont une existence physique telle que la succession du jour et de la nuit et le cycle annuel. Et à partir de ces unités de base qui ont une existence physique, il y a des systèmes conventionnels qui vont procéder à un découpage en fait et à un assemblage. Alors le découpage peut être en mois, semaines, heures, minutes, qui sont des unités qui sont complètement conventionnelles et qui peuvent changer évidemment dans les différents calendriers, dans les différents computs du temps. Ça peut être aussi en extension le fait que les années, alors là on le voit très bien, on a dans les calendriers mésoaméricains par exemple, les années sont elles-mêmes regroupées en cycles d'années sur par exemple 52 ans avec différents cycles dans le calendrier maya. Et là encore une fois, il s'agit d'un système qui est conventionnel, qui organise le temps. Et évidemment, c'est dans le système conventionnel que s'exerce le plus le pouvoir de celui qui veut, non pas maîtriser le temps à proprement parler, mais à travers le temps, exercer une maîtrise sur les humains. Je pense que c'est la façon peut-être de décaler l'intitulé de la table ronde, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas être esclave du temps, c'est plutôt être esclave de certains maîtres qui, à travers des actions de contrôle du temps vont exercer une maîtrise sur d'autres humains. Mmh. Et de ce point de vue-là, évidemment, les calendriers sont un cas de figure, mais on pourrait en évoquer un autre qui est à partir justement d'une rythmicité cosmique ou physique, le fait de pouvoir prédire, de savoir à quel moment quelque chose va avoir, est aussi un instrument de pouvoir. Je pense par exemple au système de marquage du paysage chez les Indiens Hopi en Amérique du Nord, qui avait tout autour en fait de l'environnement des marqueurs permettant de savoir où le soleil allait, par exemple, arriver au moment du solstice ou au moment d'un autre moment de l'année. Et ici, on est dans une forme qui est à mi-chemin entre le conventionnel et le naturel, parce qu'il y a bien un marquage naturel, puisqu'il y a bien le soleil qui bouge tout seul en quelque sorte, mais il y a aussi une culturalisation de ce mouvement avec l'inscription dans un paysage, alors qui peut être un paysage naturel, comme dans le cas des Hopis, ça va être le moment où la montagne va se synchroniser avec le soleil ou l'inverse, mais ça peut être aussi un paysage humanisé, anthropisé. Pensez à Stonehenge, pensez évidemment à Chichen Itza, où vous savez que le 21 juin, eh bien, l'ombre de l'escalier produit un serpent. Donc ça, c'est une forme aussi de maîtrise sur un système qui est plus naturel que le calendrier, mais qui demeure malgré tout très anthropisé.
Il faut quand même remarquer que cette maîtrise du temps était d'abord appliquée à soi-même. La personne désirait connaître le temps. Les premières horloges, lorsqu'elles arrivent dans les intérieurs bourgeois, on était bien content d'avoir l'heure et de savoir l'heure qu'il est. Mais avant cela, c'était le roi qui en disposait. Et c'est à partir du moment où on a pu compter le temps comme ça qu'est venu l'adage, l'exactitude et la politesse des rois. et qu'on a mis en place des protocoles du lever, de tous les actes de la journée du monarque à partir de ce temps-là.
On parlait des... Donc on a compris que le temps n'est pas ce qui nous réduit en esclave, mais que c'est un moyen de nous mettre en esclavage. Et ça passe aussi par des objets, j'ai l'impression. Claude, tu as parlé des horloges, des montres, je ne sais plus de quoi, mais on peut penser aux pointeuses aussi dans les usines. Est-ce qu'il y a d'autres objets, peut-être Sylvie, qui te font penser comme ça à ce rapport au temps plus moderne? Peut-être moi je pense au téléphone, mais est-ce que... ou quelqu'un d'autre, mais...
C'est pratiquement, de nos jours, c'est pratiquement tous nos objets usuels, puisqu'on a des horloges dans le micro-ondes, le four, ça c'est devenu absolument universel. Pour revenir juste un petit peu en arrière, un des problèmes aussi de la maîtrise du temps et de la possession des objets, c'est que pour les ouvriers du début de l'industrialisation, ça posait le problème qu'ils n'avaient pas de montre. Et que très souvent, il y avait des fabriques, pas des sweatshops, mais quasiment, où en fait, ils commençaient avant le lever du soleil, où ils terminaient après, parce que les journées, c'était plutôt 12 heures ou 16 heures, hein, pas 8 heures. Et en fait, leur problème, c'était d'arriver à se lever le matin à la bonne heure, parce qu'il n'y avait pas de réveil. Donc, on est à la fois, certes, esclaves, mais en même temps, le réveil est utile, parce que ça évite d'arriver en retard.
They had knocking men, didn't they, back in Victorian times? They had men who were hired as alarm clocks, so that would be their profession. I always thought that would be a fantastic job to have. They had long poles because, of course, terraced houses go way up, and they would walk around and wake people up at appointed times. It would only work at a certain scale, I think. Once you have a skyscraper, probably not going to work anymore.
Il y a un texte très célèbre d'Alain Corbin, un historien, qui a étudié toutes les controverses qui ont eu lieu au XIXe siècle sur les sons de cloches et la possibilité d'utiliser les cloches dans une paroisse. Parce qu'évidemment, là, on voit bien qu'en même temps que l'idée de diffuser un message et une foi catholique, il y avait aussi l'idée de marquer un temps qui s'imposait à tous ceux qui pouvaient entendre les cloches à distance. Donc,
Oui, alors ça aussi, ça a été, on a légiféré là-dessus. Il y avait le temps de l'église qui était celui de la cloche, et petit à petit, on a voulu substituer le temps civil, le temps du travail. Il y avait l'usine qui avait sa cloche, ou du moins la mairie qui avait aussi sa cloche, et parfois qui ne sonnait pas exactement aux mêmes heures, parce que c'était les heures des offices d'un côté. Donc, pour certains, histoire de les remettre au pas, on supprimait la cloche, ou on interdisait de faire sonner la cloche. Donc là, c'était devenu un moyen de contrôle d'une population sur une autre.
D'ailleurs, ça peut toujours causer des frictions entre différents calendriers ou différents moyens de mesurer le temps. Parce qu'on pense, j'ai pensé aux mosquées ou qu'il y avait un muezzin qui appelait à la prière régulièrement. On voit que c'est une pratique qui est toujours interdite en France. Et j'imagine dans d'autres pays d'Europe aussi. C'est comme s'il y avait une concurrence du temps, en fait. Même si les non-musulmans ne voulaient pas entendre finalement ce temps rythmé pour les musulmans. Donc, il y a un peu une concurrence entre différentes manières... De diviser le temps, et comme il y avait une sorte de, je vais dire, avec beaucoup de guillemets, de conflit de civilisation entre les gens qui regardent le temps par leur montre, les musulmans qui veulent encore un temps religieux scandé par le muezzin, et c'est une cause de crispation, ce temps-là est une cause de crispation entre les gens. Et on peut se poser la question du temps, est-ce que, quand on s'y soumet volontairement ou pas, par exemple, parce qu'on parlait du réveil matin, si c'est nous qui choisissons en vacances de faire la grasse matinée, de ne pas le mettre, ou... Bon, finalement, on n'est pas esclave du temps, on n'est pas contraint et on en fait ce qu'on veut. Là, c'est nous qui choisissons volontairement de nous regrouper tous à 10h du matin pour venir vous parler ou pour venir nous écouter. Bon, là, c'est un peu un calendrier, un horaire qui nous libère finalement, qui nous donne ce qu'on veut. Si au contraire, on nous oblige à nous faire sonner le réveil tous les matins à 6h alors que bon, on dormirait bien jusqu'à 8, évidemment, c'est une contrainte qui devient insupportable.
Il y a un autre truc auquel je viens de penser, c'est que dans l'Antiquité, par exemple, enfin, il y a une espèce de, j'ai l'impression, de contamination technologique au niveau du temps. Dans l'Antiquité, c'était la nature qui dictait les choses, puisque on avait une période où il fallait planter et une période où il fallait récolter. Et bon, la société a changé et on est passé à une espèce de contamination vraiment technologique. Valérie, est-ce que aussi il y avait une conception du temps du coup qui était différente à l'Antiquité d'aujourd'hui?
La conception linéaire du temps a toujours existé dans l'Antiquité, mais il y a une conception un peu qui entre en concurrence certaines civilisations, qui était la conception cyclique du temps, qui est apparue, je pense, en Mésopotamie dans la Haute Antiquité, où on considérait que tous les 3600 ans, les planètes seraient alignées de la même manière, et donc cette grande année de 3600 ans recommençait. Et donc que tout recommençait de la même manière. Et c'est un thème qu'on voit aussi dans d'autres civilisations, comme par exemple en Inde, dans l'hindouisme, où de manière cyclique, l'univers se détruit et renaît. Enfin, c'est le même univers qui se détruit et qui renaît. Où, comme ça, on a l'impression d'un éternel retour, d'un éternel recommencement des choses. Là, évidemment, si on pense à cette conception-là, les civilisations sont totalement, pour le coup, esclaves du temps, puisque tout se recommence exactement de la même manière, sans que personne ait le choix, sans que la nature ait le choix, sans que l'homme ait de libre arbitre ou de choses comme ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est amusant parce que c'est une conception qui peut nous sembler très archaïque, mais qui pourrait être en quelque sorte réactivée à notre époque si on pense aux théories, par exemple, liées aux univers oscillatoires. Enfin, je crois que c'est une théorie qui a été invalidée maintenant, mais où l'univers commence par un Big Bang et finit par un Big Crush. Il suffit d'un nouveau Big Bang et d'un nouveau Big Crush. Donc c'est assez amusant de penser que même à notre époque, cette vision complètement, complètement cyclique du temps peut encore exister, finalement.
Sylvie, non, tu voulais...
Non, je me posais la question de savoir, pour compter le temps, il faut avoir la capacité de compter des grands nombres, du moins dans des nombres suffisamment grands pour arriver à des calendriers de 3600 ans. Je ne sais pas si en anthropologie, on sait, est-ce qu'on a des traces de différents calendriers, d'évolution des calendriers, ou est-ce que la question ne se pose pas parce que
la question
c'est trop
pièce de la
parce que
de la
c'est
matinée.
Trop compliqué.
Je pense qu'il y a des sociétés qui n'ont pas des systèmes de numération qui leur permettent d'atteindre des grands nombres. Ils ont malgré tout, évidemment, un compte du temps. Après, effectivement, ça ne prend pas une forme objectivée dans des calendriers.
Je crois qu'il y a des sociétés où, effectivement, ils n'ont pas la possibilité de compter jusqu'à plus 2. Parce que quand ça dépasse 5 ou 10, c'est plus ou c'est nombreux. Mais ils n'ont pas le chiffre, ce qui est quand même fascinant comme idée.
Bah, c'est l'intérêt de voir comment, avec des mêmes dispositifs cognitifs, l'humanité a pu créer un rapport au monde extrêmement différencié.
Le temps, c'était l'ordre. C'est la société qui peut se mettre en place... puisqu'il y a un ordre social qui peut être institué à partir d'un compte du temps. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des révolutions et des changements, on parle toujours de temps nouveau qui arrive.
Tout à l'heure, Matt parlait du fait que chacune de nos secondes est devenue très précieuse et qu'on se rend esclave nous-mêmes, en fait. C'est ça que tu voulais dire ? Qu'on se...
Yes, certainly. I mean, I have a kind of a unique position because I grew up in virtually the ancient civilization that she was talking about. I grew up on a farm in New Zealand in the 1980s. So we had, and I'm not exaggerating, we basically had no technology. When I was born, we had a black and white TV. So I guess that's something which played, I think, one channel. There was no, obviously no internet. There was no computers. There was no phones. I think there are probably millennials in the room having panic attacks while I describe this. Yeah, just dropping. But the effect on your perception of time was amazing. I think that is why I became very interested in writing, because time is excruciating when it's lived like that. Just waiting for your favorite shows to start was torture, but waiting for Christmas was absolutely ridiculous. So I think I became interested in writing because when you focus on something, when you focus on time, time vanishes. No, the opposite. When you're not concentrating on time, time vanishes. And of course, now I live in London, which is the antithesis of that idea to a ridiculous degree. London has the fastest walking pace of any city in the world. People, and if you go there, I know many of you will, and observe people walking in London, it's absurd. There, on the underground in London, there are trains every 2 minutes, but people still run for trains. I think that's the one fact that I found most difficult to grasp about London. It's 2 minutes. Unless you're a paramedic, or you're going to put out a fire, there's not really any real reason to be... Yeah, so I've experienced time on, I think, the two extremes on the planet. But certainly what I was saying before about about the torture, the self-torture which comes from time, being told repeatedly that your time is a valuable commodity. It's like giving a person a handful of sand and saying, this sand is the most valuable thing in the world. Every single grain of sand that hits the ground after that will be like an agony. That's life in London.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi de récompense plus fort, enfin de, quand tu attendais Noël, est-ce que quand Noël arrivait, c'était pas encore mieux d'avoir attendu et d'avoir souffert?
No. 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 It was totally, those 2 weeks. Your mum would say it's 2 weeks to Christmas, and you would go, that is, I don't understand that for a start. All I want is for Christmas to be here. And the night before, I mean, we used to get up at 4 a.m. because we just could not exist in a dimension where Christmas was not now. And of course, now many people in the room will relate to the fact that we get to October and the Christmas decorations go up. When you get to a certain age, you start going, what, again? No, it can't be Christmas already.
Mm. On s'est habitué à vraiment avoir tout de suite. Et c'est une autre forme d'esclavage aussi. De, voilà. Mais justement, on parle de la perception du temps, en fait. Comment maintenant qu'on a vu qu'on était esclave du temps, comment échapper au temps, en fait? Alors, par exemple, moi, il m'arrive d'oublier que 2 heures se sont passées si je suis en train de lire un bon livre, ou c'est ce que disait Matt, on est plongé, on oublie le temps et donc il passe pas. Est-ce que il y a des exemples, que vous avez des exemples comme ça de perception du temps complètement différente? Par exemple, une journée aux Utopiales, pour moi, ça passe beaucoup plus vite qu'une journée chez le dentiste, par exemple, à attendre.
Oui, c'était tout l'écart entre le temps subjectif et le temps, notre temps biologique, finalement, oui. Ou quand on écoute de la musique, tout passe très vite. Quand on est en rendez-vous amoureux, tout passe très vite aussi. Et quand on est effectivement en train de se faire arracher une carie, c'est sans fin. C'est peut-être un moyen d'échapper à l'esclavage du temps, finalement, voilà. Ou d'imposer notre temps subjectif.
Peut-être que pour essayer de bien saisir quelle modalité de la libération on peut choisir, on pourrait essayer, à partir des exemples qui ont été donnés, de peut-être pas d'élaborer une classification, mais de voir différentes façons d'exercer son contrôle à travers le temps. Et je pense qu'on a plusieurs cas de figure qui sont apparus, en fait. On a la possibilité d'exercer le contrôle à travers un système de mesure qui ne change rien à la nature du temps, en fait. C'est vraiment la mesure, la manière de le compter qui peut être exercée. On peut exercer un contrôle à travers la connaissance qu'on a du temps, c'est-à-dire le fait de pouvoir prédire, par exemple. Mm-hmm. On peut exercer aussi un contrôle à travers des activités de coordination, qu'il s'agisse d'organiser la succession des tâches de travail ou de rites qu'un groupe humain va avoir à accomplir. Donc là, c'est aussi un autre moyen d'organiser les choses. Mais cette succession des tâches ne va pas sans une autre dimension qui est très importante, qui est la dimension de synchronisation. Exercer son pouvoir sur les humains à travers le temps, c'est aussi mettre en place des procédures plus ou moins efficaces pour faire aux gens la même chose au même moment. Comme par exemple s'asseoir à un moment donné pour écouter une audience, une conférence, se mettre à marcher au pas dans une situation par exemple militaire, etc. Ce qui implique une autre dimension, cette dimension de la synchronisation, qui est la dimension de la rythmicité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de décider on commence maintenant, on s'arrête maintenant, on fait tous la même chose, ou alors une variation qui serait la réplique, c'est le roi se lève, donc tout le monde va se lever au même moment, le roi va manger, donc après les gens vont pouvoir manger. Donc il y a à la fois l'idée de synchroniser des moments, mais aussi il y a des tonalités rythmiques, c'est-à-dire qu'il y a une manière de le faire, une façon d'accélérer ou de ralentir certaines tâches ou certaines activités. Et le troisième niveau, outre, je dirais, cette question de la mesure, de la coordination du temps, ça serait la mise en récit du temps, la façon dont agir sur le temps, c'est aussi agir sur le temps passé et le temps futur, conserver ou produire une mémoire du passé, produire de l'histoire, ou bien élaborer un projet de futur, sont aussi des modalités à partir desquelles on peut exercer un contrôle sur un groupe humain. Et en fait, la question qu'on pourrait poser, à mon avis, enfin, si on part si on envisage ce tableau comme différentes façons d'agir sur autrui à travers le temps, on pourrait dire qu'on est d'autant plus esclave que le maître agit sur toutes ces dimensions-là. Et on est d'autant plus libre qu'on est moins sous la pression de toutes ces dimensions-là. Alors, par exemple, il semble très difficile de se libérer d'un calendrier. En revanche, se libérer d'un discours historique semble plus faisable. Produire de nouveaux rythmes ou de nouvelles successions de tâches, c'est aussi des choses qui sont faisables. Donc, je pense que c'est intéressant de penser à la libération comme des moments ponctuels par rapport à un contrôle effectif qui s'exerce sur une portion du réel. Enfin, c'est une suggestion, en tout cas, d'analyse que je...
Ça montre bien que cette maîtrise du temps montre que nous sommes prédisposés au temps. C'est déjà en nous. Nous avons aussi besoin du temps. Tu parlais tout à l'heure de fuir. Je pensais plutôt m'abstraire du temps. Pendant un moment, on s'abstrait dans une tâche et ensuite on revient au temps. J'ai été aussi frappé par ce que disait Matt tout à l'heure avec cette femme qui était complètement désorientée parce qu'elle ne savait plus à quel moment de la journée on était. Donc nous avons aussi besoin de savoir quel est le moment de la journée. Nous sommes en fait des gestionnaires de notre propre temps. Et là où l'esclavage est apparu, c'est que la gestion de notre temps nous a été confisquée par d'autres personnes. Pendant un moment, je crois que les premiers temps, c'était le temps naturel, où on se conformait aux saisons, au cycle du jour et de la nuit. Et puis ensuite, il y a eu le temps humain, c'est-à-dire celui qui a son horloge, sa montre, qui peut gérer son propre temps à partir de cette connaissance-là. Et ensuite, on est venu au temps de la machine, où c'est la machine qui a une montre en elle, et c'est nous qui sommes obligés de nous conformer au temps de la machine. À ce moment-là, l'humain devient l'outil. C'est l'humain qui devient la machine.
Ça me fait penser à une nouvelle de Marcel Aimé, qui a été écrite pendant l'occupation, qui s'appelle La Carte. Et un ministère quelconque a décidé de rationner le temps. Donc chaque personne, selon sa fonction dans la société, a droit à un temps de vie. Alors il n'y a pas d'explication technique, entre guillemets, de la façon dont ça se passe, mais ça se passe. Et évidemment, c'est une allusion aux cartes de rationnement de l'époque. Mais c'est un texte assez amusant, enfin même très amusant et très, très intéressant. C'est dans le recueil du Passe-Muraille.
Je crois qu'on peut effectivement essayer de se libérer du temps, comme vous disiez, essayer de se libérer par exemple d'un discours historique pour se libérer d'un passé qui serait trop envahissant, ou essayer de se libérer par exemple du salariat en cherchant un autre mode de travail. Mais c'est vrai que c'est souvent compliqué, ça prend beaucoup de temps si j'ose dire, et ça peut être aussi éventuellement dangereux. On voit si on produit par exemple un discours historique non conforme à ce que attend la société autour de nous, on subit à tort ou à raison les foudres de cette société en général. Alors évidemment, là je pense chez nous aux révisionnistes par exemple qui nient la Shoah. Bon, moi c'est une idée qui me choque énormément en tant qu'historienne, mais il faut reconnaître que émettre cette idée-là tout de suite, c'est se soumettre à la réprobation sociale. Et à l'inverse, par exemple, je pensais à Faberland de Robert Harris, un roman dans lequel les nazis ont triomphé et où le narrateur découvre... Alors lui, la Shoah n'a jamais existé pour le coup, et où le narrateur la découvre et accède à cette vérité-là et donc remet en cause tout le discours que tient son gouvernement à cette époque-là. C'est aussi extrêmement dangereux. C'est encore d'autant plus dangereux que l'État, pour le coup, est totalitaire. Donc c'est, en fait, dévier de la norme sociale, que ce soit en changeant de discours ou en essayant, par exemple, si vous essayez d'échapper aux normes du travail, en refusant le taux horaire qu'on vous demande, en refusant de prendre des vacances. Bon, si vous refusez de prendre des vacances, là, vous vous soumettez... alors, votre patron sera très content, mais c'est vos camarades de travail qui le seront peut-être sans doute moins, et qui vous diront que vous gâchez le métier. Donc, vous soumettez ou à la réprobation sociale, ou voire à la réprobation de la loi, évidemment.
J'éviterai quand même de faire un parallèle entre la façon dont une science historique peut se constituer et engager une discussion autour une réflexion autour du passé et la façon dont un maître peut imposer des normes de travail à des ouvriers ou à des esclaves. Je pense que là, il y a peut-être un parallèle qui est un petit peu dangereux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lieux en fait, d'élaboration de la temporalité, à la fois sur des rythmes individuels, sur des rythmes collectifs. Et alors tout le danger, enfin tout le paradoxe en fait, c'est qu'on se rend compte que plus on veut avoir une défense d'un temps qui soit propre, autonome, plus on gagne à s'appuyer sur des collectifs solides et plus on court le risque de créer de nouvelles formes de temps imposées à des groupes. Donc il y a cette tension de, en quelque sorte, de l'institutionnalisation du temps et du fait que si on veut parvenir à avoir un tant soit peu de temps commun, eh bien, il faut qu'il y ait des dispositifs malgré tout qui, à un moment donné, feront violence à la durée dont vous parliez, à une perception psychologique propre que les individus peuvent en avoir.
Le problème, c'est que ces dispositifs nous reviennent très souvent dans la figure. Le temps est un petit peu comme un boomerang. Pour gagner du temps, on va peut-être utiliser divers outils. Et ces outils, finalement, nous prennent notre temps. Il n'y a qu'à voir le smartphone. C'est peut-être le moyen d'être joint à n'importe quel moment. Et c'est finalement le fait de ne plus avoir un moment à soi parce qu'on peut être joint sans arrêt.
Oui, tout à fait. C'est la thèse de l'accélérationnisme, justement, qui est de dire que toutes les innovations techniques pour gagner du temps, eh bien, produisent des contre-effets.
Yeah, and there's one very interesting point, sort of overlapping all of that, is the fact that, Perig, you were talking about a collective experience of time, which is what we're having here. But the thing that you have to come to terms with is we are all experiencing this time in deeply different ways. I think for anyone sitting up here who's been excited about doing this, for example, maybe the adrenaline's going. I just looked at the clock and 40 minutes have passed, but I suspect there are lots of people sitting in the audience, maybe for whom this is going a lot slower.
Et peut-être aussi que pour sonder la capacité d'invention des humains par rapport au réel, on pourrait voir dans quelle mesure la fiction permet d'explorer une libération par rapport à ce temps, puisque c'est difficile dans la réalité de s'abstraire de ces contraintes-là. Comment la science-fiction s'abstraint-elle de la question de la mesure, de la succession?
Avant ça, on peut même demander aux auteurs, parce que c'est ce que Matt a dit tout à l'heure, il a commencé à écrire parce que le temps passait pas assez vite, j'ai l'impression. Est-ce que écrire, c'est pas essayer, comme ce que disait Claude tout à l'heure, de s'abstraire du temps, quoi?
C'est entrer dans pour moi, c'est entrer dans un temps différent. C'est un temps qui est hors de la quotidienneté de l'existence et qui est plus riche, en fait, et qui permet de récupérer le réel d'une autre façon. C'est un peu compliqué. Mais oui, effectivement, ça joue avec le temps. Il n'y a pas de question parce que le fait de écrire, c'est se concentrer sur des détails qui sont pas les mêmes que ceux qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc on reconstruit, on remanipule tout ça.
Et c'est vrai que devant la page blanche, le temps passe très lentement.
C'est vrai aussi.
Qu'il vaut mieux aller se faire un café. Oui. Dans ce cas-là.
Mais on a aussi des contraintes en tant qu'écrivain. Moi, je sais que, étant à la tête d'une série de bandes dessinées, mon éditeur attend qu'on produise un album par an. Donc, on a quand même une contrainte de temps qui est assez forte, même si elle est beaucoup plus faible que celle que peut avoir un salarié qui bosse en entreprise, voire en usine. Il faut quand même qu'au bout d'un certain temps, on ait produit et un scénario, et un dessin, et finalement un album. Donc, même quand j'écris, malheureusement, je suis soumise à ces contraintes temporelles.
Toi, Matt, comme tu es à la fois journaliste et écrivain, tu as deux temporalités d'écriture différentes parce que tu dois avoir des deadlines pour ton travail de journaliste, j'imagine, et peut-être moins pour ta fiction. Est-ce que tu conçois ça vraiment différemment dans ta façon de travailler le temps?
No, because every job is broken up into smaller jobs anyway. That's the only way that it'll make sense. But I think the main difference would be that an author works in four different modes of time. They work in author time, which is obviously the time that they're writing. They work with narrator time, which is the time that the narrator that they're writing is telling the story. And then there is reader time. And so you've got all these different these levels. There's the time that it's being read, the time that it was written, the time that the story is taking place, and the time that the narrator is telling the story. I think that is quite separate from journalism, for example, which is all about immediacy and presence. So you're always working in the present tense. But it doesn't change. You sit down, there's a blank page, and it's, you know, it could be horrifying for a few seconds, But for me, writing is deeply addictive. And so the blank page kind of takes care of itself. My main problem, I was thinking last night, because I get insomnia when I travel. I think everybody does. So I was lying awake last night, and I was too tired. I tried working, but I was too exhausted. So you're sort of watching the clock move very, very slowly. And I kept myself distracted by, because I knew what the topic of this discussion was, I kept myself distracted by trying to invent forms of torture solely using time. It's a very good game.
Tu as trouvé quoi?
The two that I came up with that were most intriguing, I think that locking someone in a chamber with a clock that goes, say, 1% slower every hour, so that it just incrementally became slower and slower over the course of days and weeks, I think eventually you would just go insane. The best one I thought was perhaps a form of imprisonment where you could send people into space in a capsule, but near the speed of light. So the sentence for them is only 1 year, but because they're approaching the speed of light, by the time they come back to Earth, they don't know what Earth has moved on by hundreds of thousands, possibly even millions of years, depending on how close to the speed of light they go. So on the one hand, you're taking your most dangerous prisoners and making them not your problem anymore because they go out into space and society moves on. On the other hand, it's a very exquisite form of torture because you don't know whether you're coming back to a radioactive planet or possibly a utopia or possibly everybody's apes. Anyone have any ideas?
No planet at all.
Or no planet at all. Yeah.
Moi, il y a une question sur l'écriture et la bande dessinée qui m'intrigue parce que la narration de la BD n'est pas du tout pareille. Comment on gère ça? Parce qu'il parlait du temps d'écriture et du temps de narration et du temps de lecture. Et c'est un problème en BD. Le temps de lecture, en fait.
Bah, le temps de lecture, un album met entre, on va dire, 20 minutes et 2 heures pour être lu, et met à peu près un an à être réalisé. Donc évidemment, le décalage pourrait paraître monstrueux. Finalement, pourquoi passer un an sur quelque chose que quelqu'un va mettre 20 minutes à lire? Ça pourrait être un peu frustrant. Après, on écrit pour être lu, dans l'espoir. Voilà, il n'y a plus qu'une personne qui le lit, on espère qu'on sera lu pendant 20 ans, 50 ans, voire plus longtemps. Donc on gère un peu cette contrainte-là comme ça. Après, il y a le temps qui est interne à la bande dessinée, qui est très particulier, puisque finalement, c'est un peu le lecteur qui décide de la vitesse à laquelle il va tourner les pages, passer de case en case, il peut même revenir en arrière. Contrairement au cinéma, où vous avez pas, vous regardez le film du début à la fin, la BD, vous pouvez avoir des mouvements comme ça entre les pages. Donc on est un peu dépendant de la bonne volonté du lecteur. Et après, on peut nous-mêmes essayer de créer du temps en variant le contenu des cases, leur forme, leur rythme. C'est vrai que si vous mettez une succession de toutes petites cases les unes à côté des autres, vous aurez une séquence qui est très scandée où le lecteur va aller très vite. Et si au contraire, vous avez de grandes cases très contemplatives, vous aurez une expérience beaucoup plus lente de la narration et le lecteur vous suivra de manière beaucoup plus lente également, quoi. Donc on a beaucoup de procédés comme ça qui peuvent nous permettre de réguler un peu le temps, le rythme que le lecteur va prendre et le temps qu'il va passer sur notre album aussi.
Moi, j'aurais voulu revenir sur la notion d'esclavage, ou en tout cas de temps qui est rythmé, et on a aussi besoin de soupapes de sécurité. Et à toutes les époques, il y a eu des soupapes de sécurité qui nous permettaient de modifier un petit peu nos existences, c'est-à-dire de changer un peu le temps. Il y avait peut-être le jour des fous, il y avait le carnaval, il y a des moments où on n'est plus soumis à toutes ces contraintes qui nous sont données de façon temporelle. Ou peut-être même se décharger de certaines émotions, ça servait peut-être pour, dans 1984, la minute de la haine. Pendant une minute, vous allez pouvoir crier, invectiver, et en même temps, c'est quelque chose qui rassemble les gens autour d'une même idée.
It didn't seem like torture to me. That seemed like the one good moment of those people's days. You know, being able to excise their hate. We do it. So we do it with sports. You know, anyone who goes to football once a week has 90 minutes of hate or yells at the TV news.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est cette dimension carnavalesque ou en tout cas rituelle avec à la fois un hors temps social et puis des systèmes d'inversion des valeurs, des changements d'état éventuellement avec l'utilisation de psychotropes. On pourrait se demander si c'est pas justement, si cette pratique-là dans des sociétés qui, par exemple, n'ont pas d'écriture. Est-ce qu'elles ne portent pas en germe le mouvement d'élaboration qui existe dans la science-fiction, qu'on peut aussi voir dans les arts de la mémoire, comme de la mythologie? Est-ce que dans ces récits mythiques ou dans des fêtes carnavalesques, est-ce qu'il n'y a pas cette façon de déconstruire le temps tel qu'il s'impose à nous? Et ça soulève la question de savoir finalement quels sont les grands dispositifs narratifs pour se libérer du temps, à la fois de la succession, à la fois du rythme.
C'est assez difficile à faire par l'écrit, le problème étant la linéarité de l'écriture, c'est-à-dire que le lecteur ne peut faire autre chose que vous lire phrase à phrase, ou presque.
Et vous pouvez décrire par exemple un monde dans lequel la succession du temps serait totalement inversée.
Oui, ça a été fait, mais ça c'est au niveau du récit. Là, je pensais plutôt au niveau de la phrase et du.
Ah non, je pensais justement que le récit, cet espace, de la même façon qu'il y a un espace rituel, il y a des espaces fictionnels qui permettent justement de se libérer de ces différentes contraintes temporelles vis-à-vis desquelles il est difficile dans la réalité d'agir.
Oui, parce que de toute façon, comme la SF en particulier permet effectivement d'envisager soit du voyage dans le temps, soit des récits qui commencent au tout début des temps et qui vont pratiquement jusqu'à la fin, tout est possible.
Dans la narration, on se débarrasse de cet esclavage du temps. Il suffit d'avoir l'ellipse. Matt n'aura pas à attendre Noël. On dit, ben voilà, maintenant c'est Noël et puis on a sauté le temps pour lequel il fallait l'attendre.
I'm not waiting for Christmas.
C'est vrai qu'il y a des super-héros comme ça qui ont un pouvoir qui leur permet de modifier le temps, en fait, ou de se projeter dans le futur ou dans le passé, ou même de raccourcir les durées, en fait. Un peu comme s'ils bougeaient eux-mêmes les aiguilles d'une pendule. Vous savez, comme dans Superman 1 ou 2, où pour revenir en arrière, il fait tourner la Terre sur elle-même.
Oui, il va plus vite que la lumière. Ah, et donc on
revient dans le temps.
Il revient dans le temps, c'est ça, voilà.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui me semble, c'est un des thèmes essentiels de la SF, et qui me semble faire partie de cet esclavage par rapport au temps, c'est la vieillesse, le temps qui passe. Et c'est une des thématiques vraiment de la SF. Comment échapper, comment atteindre l'immortalité? Parce que évidemment, si on devient immortel, on n'est plus esclave du temps. On peut en perdre, on peut en gagner, enfin on peut... Voilà.
Alors, oui, on est plus immortel, mais n'oublions pas que si nous sommes devenus esclaves du temps par rapport à la technologie, on avait montré que le temps a une certaine valeur, et que si cette valeur est monétaire, l'immortalité, ça coûte cher. C'est un gros problème. Et pensez à l'âge de cristal, par exemple, où pour économiser les ressources d'une société qui vit un petit peu en autarcie, on dit qu'à tel âge, il faut mourir. Donc là aussi, le temps de la vieillesse, ben c'est une vieillesse qui a été instituée par un système avec une mesure de temps, simplement parce que le temps était devenu une valeur et qu'il s'agissait d'économiser des ressources ou de l'énergie.
Oui, je crois que la vieillesse et l'immortalité, c'est quand même un peu deux choses différentes, parce qu'on peut être immortel et vieillir, malheureusement. On voit ça souvent dans la mythologie, où je pensais à la Sibylle, par exemple, qui était une prophétesse dont Apollon était amoureux. Et en échange de ses faveurs, il lui a offert l'immortalité, justement. Mais comme la Sibylle a été mauvaise joueuse et lui a finalement dit non malgré tout, il lui a dit « Bon, bah, tu seras immortel, mais tu continueras à vieillir. » Donc elle a vieilli comme ça pendant des centaines d'années, au point de se ratatiner et de se transformer en cigale, finalement. C'est comme ça qu'on expliquait dans l'Antiquité l'origine de l'insecte. Donc vieillesse et éternité, c'est quand même deux choses différentes. Et on voit bien que même les dieux vieillissent, en quelque sorte. Quand on voit les différentes générations de dieux, Apollon est jeune et beau, mais son père, Jupiter, est déjà un homme d'âge mûr. Et quand on représente encore la génération précédente, Saturne, on a un vieillard. Donc finalement, on a beau être immortel, on vieillit tout de même. Après, c'est la question de la mort, là, pour le coup. Finalement, être esclave du temps, c'est mourir, malheureusement. C'est un esclavage dont on ne peut pas sortir.
Il y a des problèmes perceptuels à ce problème de l'indéfinie de l'extension de la vie, qui sont assez frightening. If you live for 1,000 years, say, you can't imagine the level of anxiety you would build up over the fact that you can still be killed. Maybe medicine allows you to live for 10,000 years, 100,000 years. You can still be hit by a bus. So the objective, I guess, has to be beyond immortality, probably has to be amortality, which is how do you make yourself unable to be killed. But even within a small amount of human life extension, we have to think, reconsider things like how long is a childhood for someone who lives 1,000 years? Are we still effectively children? What happens to a life sentence? If I kill this gentleman, no offense, what is my life sentence? What is his life worth? Yeah. If I'm going to go to jail for 10,000 years, the entire course of my life, just because he stood up during question time and he did a long statement that didn't actually have a question in it, and so I got angry and killed him. Life insurance. These are the things I think about when I'm lying awake at night.
Waiting for Christmas.
Oui, non, ça me faisait penser à un texte de Greg Egan, mais le titre me revient hélas pas, où justement les gens vivent très longtemps et à certains moments disparaissent. Ils abandonnent leur ancienne vie pour passer à complètement autre chose. Justement pour gérer le problème de la longévité et donc de l'accumulation des expériences, des gens, des liens, etc.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Parce que l'heure tourne et on va finir là. On va finir sur Greg Egan et l'immortalité.
Ouais, à moins qu'il y ait des questions.
Ah, je sais pas si on.
Il n'y a peut-être pas le temps.
On n'a pas le temps, non, je suis désolé.
Voilà la conclusion.
Ouais, c'est ça. Nous sommes esclaves, nous aussi, du temps. Merci beaucoup à nos invités et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde.